Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 10 janvier 1940, l'incident de Mechelen en Belgique. Le 10 janvier 1940, l'avion de deux officiers supérieurs de la Luftwaffe atterrit par erreur en Belgique. Les deux gradés portent sur eux le plan d'offensive à travers le plat pays. Ils ne peuvent le détruire complètement et l'état-major allié en prend connaissance. Cet incident entraîne le renforcement des positions alliées dans le nord de la France, invitant Adolf Hitler à tenter le coup de faux des Ardennes. Sur le front occidental, le dispositif allemand comporte trois ensembles d'armées. Le groupe von Leibe, à gauche, sur la ligne Siegfried, face à la ligne Maginot, a un rôle essentiellement défensif. Les groupes von Bock, à l'aile septentrionale, et von Rundstedt, à l'aile méridionale, sont chargés de la mission offensive. Préparant l'invasion de la Belgique, Hitler envisage l'éventualité d'un échec du groupe d'armée nord confronté à d'importants obstacles naturels et à la masse de manœuvres alliées. Il pense donc se ménager des possibilités à l'aile sud par un effort secondaire en direction de Sedan avec deux divisions blindées sur les neuf disponibles et en prévoyant que le centre de gravité puisse être transféré au sud durant l'opération militaire. Les Français ne conçoivent que la réédition de la première phase du plan Schlieffen de 1914, à savoir l'invasion de la Belgique. Ils prévoient l'envoi dans la plaine belge, au nord de la Sambre, dès le déclenchement de l'attaque allemande, de la grande majorité de leurs unités blindées et de l'excellente armée britannique. Les indications météorologiques incitent Hitler à fixer le jour J au 17 janvier. Leur H est déterminée 15 minutes avant le lever du soleil à Aix-la-Chapelle, donc à 8h16. Dans la soirée du 9 janvier, à Münster, en Westphalie, au siège de l'état-major de la 2e flotte aérienne, le major Reinberger est avisé de se tenir prêt à partir le lendemain matin pour Cologne, en vue de régler avec l'état-major du 1er corps aérien certaines opérations communes. Il reçoit tous les ordres généraux et les documents de base nécessaires. Il voyage en train, car le transport de pièces secrètes par air est strictement interdit. Au casino de la base aérienne, il rencontre le major de réserve Hohenmanns, qui lui propose de le conduire à Cologne dans son avion personnel. Le 10 janvier, à 11h, les deux officiers supérieurs s'envolent à bord d'un Messerschmitt 108. Au cours du vol, le ciel se couvre et la visibilité devient mauvaise. Le moteur s'arrête. Un atterrissage forcé est indispensable. Un brave paysan qui travaille dans son champ annonce aux deux aviateurs qu'ils sont en Belgique, près de Mechelen-sur-Meuse, dans le Limbourg. Reimberger révèle alors à son compagnon que sa serviette est pleine d'ordres ultra secrets qui ne doivent en aucun cas tomber aux mains des Belges. Il se précipite derrière une haie pour brûler ses papiers. Pendant ce temps, Wenmans amuse les gardes frontières belges qui accourent. Ils aperçoivent une fumée suspecte qui monte de la haie voisine. Ils se précipitent, éteignent le feu à coups de botte et ramassent les papiers non encore consumés. Peu après, survient un officier belge, le capitaine Rodrigue, commandant un escadron cycliste qui fait les premières constatations. Il conduit les officiers allemands à Mechelen et téléphone à Bruxelles. Il lui est recommandé de traiter avec courtoisie ses hôtes de passage. Vers 18h, arrive le major Verhagen de l'état-major général belge. Il examine les papiers récupérés et certifie leur authenticité par téléphone. Il communique les premiers résultats de son enquête au chef du contre-espionnage qui avise à son tour à 21h le général von Overstraten, conseiller militaire du roi Léopold III. Dans la nuit, les papiers sont traduits. Le témoignage du général von Overstraten est explicite. Le premier document est l'ordre général d'opération de la 2e flotte aérienne. Le voile est déchiré. L'action vise à la destruction de l'armée belge, de l'armée anglaise et d'une partie aussi importante que possible de l'armée française. Certes, la date de l'offensive n'est pas précisée, mais les documents indiquent qu'un temps sec et froid, comme le temps actuel, favorisera l'opération. D'autre part, des renseignements annoncent des mouvements allemands à notre frontière. L'offensive pourrait commencer dans 2 ou 3 jours. Le général avise le lieutenant-colonel français Hautecoeur, officier de liaison, à qui il remet un relevé écrit de sa main des principaux ordres allemands à portée de la part du roi au général Gamelin à Vincennes. Le 13 janvier à 20h, Bruxelles réceptionne un message du colonel Goethals, attaché militaire belge à Berlin. Il annonce que l'attaque allemande est avancée au lendemain. Des dispositions de mobilisation et d'alerte sont prises. Les conditions météorologiques évoluent. Un vent chaud souffle. Il dégèle et il pleut. L'invasion de la Belgique est ajournée. Le terrain fangeux et la mauvaise visibilité se prêtent mal à l'action conjuguée des chars et de l'aviation. Hitler est pris d'une rage folle. Il limoge le général Felmy, commandant de la 2e flotte aérienne, qui est remplacé par le maréchal Kesselring. Les gouvernements français et britanniques sont maintenant partisans d'une entrée préventive sur le territoire belge. Le 15 janvier, à 9h30, au château de Laeken, le roi des Belges reçoit l'amiral Keyes, qui lui remet un message affirmant que le gouvernement de Sa Majesté est prêt à accepter l'invitation du gouvernement belge aux forces britanniques d'entrer en territoire belge. Il donne également certaines assurances relatives à l'intégrité future de la Belgique et une assistance financière. Cependant, Léopold III et son conseiller militaire s'opposent à la pénétration des troupes alliées avant toute invasion allemande. Nous allons retrouver dans un instant la chronique littéraire, un jour trois livres, qui a été préparé comme de tradition par Emmanuel. Mais avant cela, nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama. C'est Francis Cabrel qui nous accompagne en chanson avec l'un de ses premiers succès. C'était en 1980 dans l'album Fragile, L'encre de tes yeux.
Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux, même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire, je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. Je n'avais pas vu que tu portais des chaînes. À trop vouloir te regarder, j'en oubliais les miennes. On rêvait de Venise et de liberté. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire. C'est ton sourire qui me l'a dicté. Dans mes rêves, tu viendras toujours du côté où le soleil se lève. Et si malgré ça j'arrive à t'oublier, j'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire aura longtemps le parfum des regrets. Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux, même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire, je l'ai puisé à l'encre de tes yeux.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire, un jour trois livres qui a été rédigé par Emmanuel, mais que j'ai le plaisir de vous présenter. Pour commencer, aux éditions XO, Le fantôme de Versailles, c'est signé Henri Lovenbruck. En octobre 1789, la ville gronde. Et la faim attise les émeutes. Quand le tout Paris apprend la mort soudaine du célèbre journaliste Gabriel Joly, le 5 au soir, des milliers de Parisiennes marchent sur Versailles. Bientôt, le palais est pris d'assaut. Dans les couloirs, une silhouette insaisissable hante la maison du roi, théâtre d'une série de meurtres. Entraînés au cœur de la tourmente, les compagnons de Gabriel s'unissent pour démasquer le fantôme de Versailles. Entre intrigues de cour et fureur populaire, chaque indice les rapproche d'une vérité plus dangereuse qui qu'il ne l'imaginait, alors que le destin de la monarchie vacille sous l'impulsion des Parisiennes insurgées. Le fantôme de Versailles d'Henri Lovenbruck s'est publié aux éditions XO. Retour à Trieste de Federica Manzon aux éditions Albin Michel. Alma avait fui Trieste pour une nouvelle vie. Contrainte d'y retourner à la mort de son père, la jeune femme journaliste à Rome s'est donné 3 jours pour régler la question délicate de l'héritage. Mais son séjour réveille d'innombrables souvenirs, car Trieste, c'est le reflet de sa propre vie. Les rendez-vous au café San Marco avec son grand-père pour boire des chocolats viennois dans la plus pure tradition austro-hongroise. La maison familiale où Vili, ce frère, ami, ennemi, lui est apparu pour la première fois. Son père, cet homme fascinant, si souvent parti de l'autre côté de la frontière dans la Yougoslavie communiste du maréchal Tito. C'est la Yougoslavie avant son implosion qui nous est ici retracée. Retour à Trieste de Federica Manzon s'est publié aux éditions Albin Michel. Et nous terminons cette chronique littéraire avec la présidente de José Fraîche aux éditions XO. Le dimanche 6 mai 2040, une jeune Chinoise de 31 ans est élue présidente de la République française. Elle s'appelle Jade. Elle est née en Chine en 2009. 31 ans plus tard, elle préside aux destinées de la France. Comment une telle trajectoire a-t-elle été rendue possible ? Un tournant de l'histoire pour le moins vertigineux et pourtant parfaitement plausible. Pour arriver à cet épilogue incroyable, José Fraîche remonte à l'année 1981, celle de l'élection de François Mitterrand en France et en Chine du règne sans partage de Deng Xiaoping, qui va réformer en profondeur le pays. Un roman où les héros côtoient les grandes figures de l'actualité et où la fiction se déploie dans le réel. L'auteur, grand romancier de la Chine, nous avons déjà eu l'occasion de présenter l'un ou l'autre de ses livres dans cette émission, est aussi un habitué des sphères politiques et économiques. Un roman qui, en tout cas, ne laisse pas indifférent. La présidente s'est signée José Fraîche et s'est publiée aux éditions XO. Nous arrivons au terme de cette émission Historama. Je remercie Thomas qui, comme de tradition, l'a réalisée. Et c'est en chanson que nous allons nous quitter avec toujours Francis Cabrel, toujours l'album Fragile de l'année 1980. Nous écoutons La Dame de Haute-Savoie.
Ces gens qui m'écrasent, quand je serai fatigué de leur dire toujours les mêmes phrases, quand leurs mots voleront un éclat, quand il n'y aura plus que des murs en face de moi, j'irai dormir chez la dame de Haute-Savoie. Quand je serai fatigué d'avancer dans les brumes d'un rêve, quand je serai fatigué d'un métier où tu marches ou tu crèves, lorsque demain ne j'irai dormir chez la dame de Haute-Savoie. Ma place. Au lieu de me jeter sur le premier Jésus-Christ qui passe, je prendrai ma guitare avec moi et peut-être mon chien s'il est encore là, et j'irai dormir chez la dame de Haute-Savoie, chez la dame de Haute-Savoie.
Oh,